France Musique. Tour de chant, Martin Pennet.
Aujourd'hui, Georges Brassens en scène, deuxième partie. En octobre prochain, nous allons célébrer le centenaire de la naissance de Georges Brassens. L'essentiel des festivités se déroule déjà à Sète, ville où le chanteur est né et est inhumé. Durant tout l'été, France Musique prépare cet anniversaire et pour ma part, je vous accompagne durant 8 semaines en compagnie de Georges. Après avoir grandi à Sète, où il a baigné dans une ambiance de chansons et vécu une adolescence assez turbulente, Georges a débarqué à Paris début 1940, puis à nouveau à l'automne 40. Mais cette fois, plus question de travailler pour l'occupant. Il décide donc de se consacrer à sa formation de poète. Logeant chez sa tante maternelle Antoinette, il passe ses journées à écumer la bibliothèque de cette dernière, puis la bibliothèque municipale de son quartier à la mairie du 14e. Durant plus de 2 ans, il étudie les maîtres de la poésie, travaille la versification et commence à construire son œuvre. Parmi ses maîtres figure François Villon, poète du 15e siècle à la vie tumultueuse, qu'il mettra bientôt en musique. En voici le résultat, tiré d'une dramatique de janvier 1955, intitulée « L'affaire Villon ».
Dites-moi où, dans quel pays, effleura la belle romaine Archipiada Nétaï, qui fut sa cousine germaine, et qu'au parlant cambrouillon mène, de sur rivière ou sur étang, qui beauté eut trop plus qu'humaine, mais où sont les neiges d'antan? Qui beauté eut trop plus qu'humaine, mais où sont les neiges d'antan? Où est la très sage Héloïs, pour qui châtre fut et puis moine, Pierres Bayard à Saint-Denis, pour son amour eut cet Swann. Semblablement, tout est la reine qui commanda que Buridan fut jeté en un sac en Seine, mais où sont les neiges d'antan? Fut jeté en un sac en Seine, mais où sont les neiges d'antan?
Vous savez, le rapprochement qu'on a fait souvent entre Villon et vous, comment vous prenez ça? En bonne ou en mauvaise part?
Je suis très heureux qu'on veuille bien me comparer à Villon. Si on me compare à Villon, c'est parce que je me suis beaucoup servi chez Villon. C'est-à-dire, je l'ai beaucoup aimé, je l'ai un peu assimilé. J'ai vécu pendant 2 ou 3 ans en étant, non pas Villon, enfin en essayant de l'être. Il est resté des traces dans ce que j'écris. J'ai dû lui voler quelque chose. Mais c'est-à-dire que pendant 2 ans, par exemple, quand je faisais mes humanités, je ne pensais qu'à Villon et que par Villon, à travers Villon, je refaisais ses vers, je les arrangeais à ma guise. J'essayais de m'imprégner de son art.
Comme il l'expliquait à Luc Bérimont en mars 1958 dans l'émission « La parole est à la nuit », Georges Brassens a fait ce qu'il appelait ses humanités par lui-même en écumant les bibliothèques. Également autodidacte de la musique et passionné par le guitariste de jazz manouche Django Reinhardt, Georges travaille sur le piano de sa tante Antoinette et commence à composer d'instinct des mélodies sur les poèmes qu'il écrit. En 1941, il se lie à Jeanne Le Boniec, une bretonne, couturière de son état, qui a pour principale cliente la tante Antoinette. En venant faire ses livraisons, elle a remarqué ce jeune homme taciturne qui écrit et joue du piano. Elle pressent qu'il a du talent et devient une sorte de fan. Jeanne habite à proximité, dans une pauvre maison de l'impasse Florimont, avec son mari, Marcel Planche, un Auvergnat, peintre en carrosserie automobile. Elle a 30 ans de plus que Georges et deviendra pour lui une seconde mère. En mars 1943, à 21 ans, Georges est comme beaucoup de jeunes de son âge, réquisitionné par le STO, Service du Travail Obligatoire, et envoyé en Allemagne au camp de Basdorf, situé à une 30aine de kilomètres au nord de Berlin, au milieu d'une forêt de pins, où il sera affecté à une fabrique de moteurs d'avion. Parmi 300 garçons français de son âge, il y rencontre notamment Pierre Onteniente, chargé de la bibliothèque du camp, qui deviendra l'un de ses meilleurs amis et plus tard son secrétaire sous le nom de Gibraltar. Georges est alors le seul à déclarer à ne pas avoir de profession, ce qui étonne beaucoup ses camarades. De plus, il s'exprime différemment des autres. Parmi ses compagnons d'exil figure aussi René Isquin, jeune employé de la Banque de France et grand amateur de chansons, qui livrera de précieux souvenirs sur France Inter en 1997.
Comme dans tous les camps en Allemagne, camp de prisonniers ou autres, il y avait une grande baraque centrale qui servait à la fois de grand réfectoire, de cuisine, de salle de spectacle, parce que c'était quand même pas mal fait. Et il y avait un espèce de piano droit, quoi. Alors je dis à Georges, j'ai découvert un piano. Alors il me dit, bon, bah, j'ai dit oui, j'ai un piano là-bas, ça s'appelait le casino. Les Allemands avaient nommé ça pompeusement le casino. Et donc on allait avec Georges le soir, tous les deux, après le boulot, il me disait, on va faire de la musique. Alors on reprenait les chansons, on sait ce que l'on faisait avant. Et puis c'est là qu'un jour, tout d'un coup, il plaque un accord et puis... reine de bal champêtre, je viens ce soir chanter pour vous belle de tout mon être, un chant d'espoir, un chant très doux, mettez-vous donc à la fenêtre, le temps est doux, le temps est doux, j'ai les paroles, le temps est doux belle pour me permettre de murmurer à vos genoux, ce mot d'amour qui pour moi vient de naître, reine de bal pour vous. Alors moi, stupéfait, tu dis c'est du traînais, je connais pas ça. Et Georges qui me dit, alors là, j'en étais resté sidéré, il me dit, tu peux pas connaître, c'est de moi. Alors du coup, je savais ce qu'il faisait, j'avais compris. Hein. Pourquoi pleurez-vous de la sorte, reine de bal en me quittant, peine d'amour, je le sais, sont bien fortes. Mais l'on s'en console pourtant, la vie est là qui nous emporte, mais je me souviendrai longtemps de vos cheveux couleur de feuilles mortes et de vos yeux couleur printemps. Adieu ami, vos pleurs me réconfortent, adieu ami, adieu 20 ans.
Ainsi, Georges dévoile à ses compagnons d'exil une de ses premières chansons qu'il a composée en 1938. Durant les longs mois qu'il passe au camp de Basdorf, il écrit de nombreux vers et brouillons de chansons comme « Au camp sous la lune » qu'il déposera à la SACEM après son retour à Paris en mai 1944, ainsi qu'une ébauche de « Pauvre Martin » inspirée par sa vie de travailleur forcé. Certaines chansons sont plus abouties et toute sa chambrée les apprend par cœur, comme par exemple celle-ci, datée de septembre 43.
Bah, l'auberger, mon Dieu, alors bah, celle-là, elle est sympa comme tout. Attends. Alors là, il n'y a pas de ni couplet ni refrain, il n'y a que... Hein, une... Ses parents tiennent des boutiques à l'auberge du bon Dieu, dans un cadre romantique, quelque part au bord des cieux, des étoiles sympathiques, d'éclairage tenaient lieu. Ses parents tiennent des boutiques à l'auberge du bon Dieu. Hélas, ses parents apprirent qu'à l'auberge du bon Dieu, leur fillette avait sans rire fait un acte ignominieux. C'est du moins tout ce qu'ils comprirent de ce roman merveilleux. Leur fillette avait sans rire fait un acte ignominieux.
De cette époque datent aussi les souvenirs d'une parvenue qui deviendra plus tard le mauvais sujet repenti. René Isquin conservait précieusement un cahier rapporté d'Allemagne comportant une quarantaine de chansons copiées dans l'ordre chronologique où Georges les lui a apprises et sur lequel ce dernier a d'ailleurs fait des annotations. Et le témoignage de René Isquin nous apporte une révélation majeure sur la façon dont Brassens réutilisera certaines musiques de ses débuts pour de futures chansons des années 50. Tel est le cas pour Le Parapluie et pour Brave Margot.
Alors ça, c'est pas mal. Hein. Ah, c'est le cahier qu'on écrivait. Puis après, une par une, je prenais et j'écrivais. Alors elles sont pas dans l'ordre que je les ai entendues moi, si vous voulez.
Lorsque mon cœur entend des paroles méchantes, il est triste longtemps, vous connaissez. Il est triste longtemps, longtemps. Oui, mais lorsqu'il entend des mots d'amour, il chante. Car il est très content, content.
Hein ? Vous l'avez reconnu ? J'en ai compté 10 qu'il a pris après la musique pour les faire. Alors celle-là, j'ai pas besoin de vous dire, vous le rappelez de celle-là ? Quand le ciel est couvert de nuages, quand le vent dans la rue la mort,
quand le monde est noyé.
On va un peu plus haut.
Quand le linge rêve de nuages, quand le vent dans la rue hurle mort, quand le monde est noyé par l'orage, l'autre soleil brûle encore. Quand paraît dans le ciel de nos vies, jalousie, mots méchants, désaccords. Ne crains rien, tendre ami. Notre amour brûle encore, etc. Je me rappelle plus bien des.
Quelle
belle musique déjà. Hein.
Cet ancêtre de Brave Margot s'intitule Pour ma Jeannette. Georges l'a écrite à Basdorf en pensant à Jeanne Le Boniek qui lui envoie régulièrement des colis. En mars 1944, à la faveur d'une permission de 15 jours, Georges est de retour à Paris chez sa tante Antoinette. Mais il décide de ne pas retourner en Allemagne. Risquant d'être attrapé par la police française ou par la Gestapo, il se cache alors chez Jeanne et Marcel. Ces derniers l'hébergeront durant de nombreuses années dans leur maison sans confort de l'impasse Florimont à Paris 14e, en compagnie d'une grande quantité d'animaux également recueillis que Jeanne nourrit avec les restes du marché voisin. Sans électricité, Georges vit à la bougie et suit le rythme du soleil, comme il le racontera à Philippe Nemo sur France Culture en 1979.
J'habitais l'impasse Florimont, qui existe toujours d'ailleurs. Et c'est une espèce de taudis que Gibraltar, mon secrétaire, habite maintenant et a transformé. Mais c'était un taudis. C'était les trucs qu'on est en train de démolir à tort d'ailleurs aujourd'hui, où l'on était très bien dedans. On n'avait ni l'eau, ni le gaz, ni l'électricité, vous voyez ça d'ici.
Et c'est là que
c'est avec mes premiers cachets que j'ai installé l'eau, le gaz et l'électricité. Mais ce n'est pas un titre de gloire, je ne suis pas en train de me vanter là. C'était tout naturel, j'ai un sens de l'inconfort, moi, tout à fait exceptionnel. Je me fous complètement du confort. Il n'y a pas longtemps que j'ai une maison à moi.
Ah oui, d'accord.
Je n'ai vécu chez moi que depuis 1966.
Vous étiez un peu marié alors?
Non, j'étais pas marié, je vivais chez des amis, chez Jeanne et Marcel. J'avais l'étage pour moi et j'habitais chez eux, c'est eux qui m'avaient recueilli. J'habitais chez eux, j'étais dans une pension de famille où je diminuais encore la portion qu'ils avaient à bouffer, quoi.
Dans les années d'après-guerre, alors que les restrictions alimentaires perdureront jusqu'en 1949, Georges Brassens est à la charge de Jeanne. Mais lorsqu'il reçoit des copains, chacun doit apporter sa contribution au menu. Jeanne, qui a un sacré caractère, héberge Georges parce qu'il lui plaît. Son couple avec Marcel n'est plus très uni, de sorte que ce dernier ferme les yeux sur la liaison qui se développe entre sa femme et le jeune Georges. Jeanne et Marcel croient en ce qu'il fait et lui font confiance. Pour la Noël 1945, Brassens s'achète une guitare d'occasion et passe beaucoup de temps dans sa chambre du premier étage à chercher des mélodies qu'il apprend, car il n'écrit pas encore la musique. C'est dans cette sorte de cocon que Georges écrira et composera l'essentiel de son futur répertoire de chansons, celui qui donnera la matière de ses deux premiers disques 33 tours 25 cm. Jeanne lui inspirera La canne de Jeanne et Marcel, la célèbre chanson pour l'Auvergnat. Plus tard, il écrira cette magnifique chanson, La Jeanne, ici interprétée lors de sa création en 1962 sur la scène de l'Olympia.
Chez Jeanne, la Jeanne, son auberge est ouverte aux gens sans feu ni lieu. On pourrait l'appeler l'auberge du bon Dieu. S'il n'en existait déjà une, la dernière où l'on peut entrer sans frapper, sans montrer patte blanche. Chez Jeanne, la Jeanne, on est n'importe qui, on vient n'importe quand, et comme par miracle, par enchantement, on fait partie de la famille, dans son cœur en se poussant un peu, reste encore une petite place. Mais Jeanne, la Jeanne, elle est pauvre et sa table est souvent mal servie, mais le peu qu'on y trouve assouvi pour la vie, par la façon qu'elle le donne, son pain ressemble à du gâteau et son eau à du vin comme deux gouttes d'eau.
Au lendemain de la guerre, Georges Brassens cherche encore sa voix. À ses heures perdues, il hante le bouquiniste des quais de Seine où il se fournit en lecture, qu'il annote copieusement. Laissant de côté son travail sur les chansons durant 2 à 3 ans, il se lie à la Fédération anarchiste. Avec quelques amis, dont le sétois Émile Miramont, dit « corne de rock », il a tenté en vain de créer en 1946 un journal anticonformiste, « Le Cri des Gueux ». Pour gagner sa vie, Georges commence à écrire sous différents pseudonymes quelques articles virulents teintés d'humour noir dans le Libertaire. Mais son esprit caustique ne conviendra guère à la rédaction et l'expérience tournera court. Rebuté par le dogmatisme de bien des adeptes du drapeau noir, il prendra ses distances, mais ses convictions irrigueront toute son œuvre, en particulier l'antimilitarisme et l'abolition de la peine de mort. Après la disparition de sa tante Antoinette, Georges hérite de son piano. À l'automne 47, il publie à compte d'auteur et sous forme de canular un ensemble de poèmes et de prose, « La lune écoute aux portes », qui n'obtient guère plus de succès que le précédent, « À l'avant-vol », auto-édité 5 ans plus tôt. Sa vie sentimentale se borne alors à des relations illégitimes qui donneront bien plus tard la chanson « À l'ombre des maris ». Il connaît aussi des déboires sentimentaux avec une certaine Jo qui lui inspireront plus tard d'autres chansons comme « Putain de toi » et « Une jolie fleur » dont voici une version radio de décembre 1955.
Tour de chant, Martin Pennet, France Musique.
Jamais sur terre il n'y eut d'amoureux plus aveugle que moi dans tous les âges. Mais faut dire que je m'étais crevé les yeux en regardant de trop près son corsage. Une jolie fleur dans une peau de vache, une jolie vache déguisée en fleur qui fait la belle et qui vous attache, puis qui vous mène par le bout du cœur. Le ciel l'avait pourvu des 1000 appâts qui vous font prendre feu dès qu'on y touche. La navette, tant que je ne savais pas, ne savait plus où donner de la bouche. Une jolie fleur dans une peau de vache, une jolie vache déguisée en fleur qui fait la belle et qui vous attache, puis qui vous mène par le bout du cœur. Elle n'avait pas de tête, elle n'avait pas l'esprit beaucoup plus grand qu'un dé à coudre. Mais pour l'amour, on ne demande pas aux filles d'avoir inventé la poudre, une jolie fleur.
En 1947, Georges rencontre Joa Eman, de 9 ans son aînée, d'origine estonienne, qui sort d'un divorce. Il la surnomme bientôt Püppchen, petite poupée en allemand, et elle deviendra la femme discrète de sa vie. D'un commun accord, ils ne vivront pas sous le même toit. Ils ne se marieront jamais, mais elle restera jusqu'au bout près de lui, y compris dans ses tournées, dans les coulisses de ses concerts, et lui dédiera plusieurs chansons. Parmi les premières, on peut citer « La chasse aux papillons » et « Il suffit de passer le pont », puis « J'ai rendez-vous avec vous » et « Je me suis fait tout petit devant une poupée ». Boulimique de lecture, Georges continue à se cultiver, à écrire des chansons et des poèmes. Sans intention de chanter lui-même en public, il cherche des interprètes et démarche dans ce but les éditeurs de musique. Mais ces derniers lui refusent toutes ses œuvres, en raison de son apparence physique assez hirsute, mais surtout en raison du style de ses chansons, trop original, qui ne correspond pas aux critères du métier d'alors. Poussé par quelques amis, Victor Laville, un sétois qui travaille comme maquettiste à Paris Match, André Larue, un journaliste qu'il a connu à Basdorf, et Pierre Antaignante, contrôleur aux impôts qu'il invite souvent à dîner dans sa chambre de la rue Pigalle, Georges passe à partir de 1950 des auditions dans des cabarets du quartier, mais il est partout refusé. Il a pourtant déjà un répertoire assez fourni, Le Gorille, La Mauvaise Réputation, Hécatombe, Les Bancs Publics, Brave Margot, Le Parapluie, et une chanson qu'il n'enregistrera jamais par la suite, intitulée La file indienne. Il en subsiste seulement une prise privée avec ses amis, réalisée début 1952.
Oui, parce que je m'en fous si ça marche pas, après ça sera lui. Voilà. Un chien caniche à l'air coquin qui venait de chez son béguin, sortant de la croupe et claquetant de la semelle. Descendait en poussant du col le boulevard de Sébastopol, sortant de la croupe et redoublant le pas. Une midinette en repos se plut à suivre le capot, sortant de la croupe et claquetant de la semelle, sans voir que son corps magnétique entraînait un jeune loustique, sortant de la croupe et redoublant le pas. Or l'amante de celui-ci, jalouse, le suivait aussi, sortillant de la croupe et claquetant de la semelle. Et le vieux mari de celle-là, la talonnait de ses pieds plats, sortillant de la croupe et redoublant le pas. Un dur balafré courait sus au vieux qu'il prenait pour Crésus, sortillant de la croupe et claquetant de la semelle. Et derrière le dur balafré marchait un flic à pas feutré, sortillant de la croupe et redoublant le pas.
En 1951, par l'entremise de ses relations chez les anarchistes, Georges Brassens rencontre le chansonnier Jacques Grélot, qui ne cache pas ses sympathies dans ce domaine, et l'auditionne chez lui. Emballé par ses chansons, Grélot convainc Brassens de s'accompagner à la guitare au lieu du piano et décide de l'aider à faire ses premiers pas dans plusieurs cabarets. Entre juin et septembre 1951, Georges tente ainsi le Caveau de la République, le Tabou, le Lapin Agile, l'Écluse, Milord Larsouille. Particulièrement mal à l'aise en scène, transpirant beaucoup et tremblant de trac, Georges n'obtient aucun succès auprès du public et ne persévère pas. Il préfère toujours de beaucoup l'idée d'avoir des interprètes. Fin janvier 1952, grâce aux relations de son ami Victor Laville à Paris Match, les journalistes Pierre Galante et Roger Théron, Georges passe une dernière audition chez Patachou, directrice d'un célèbre cabaret de la Butte Montmartre, et ce sera la bonne. Il racontera ses débuts à Guy Herisman en 1964.
Mais comment cela vous est venu, cette idée d'entrer vraiment dans le métier de la chanson ?
J'écrivais des tas de choses.
Quelqu'un vous a conseillé, vous a poussé ?
Oui, c'est-à-dire que les copains autour de moi se sentent un peu émus voyant que j'approchais de 30 ans et que j'avais quelques chansons qui pouvaient me permettre de gagner ma vie, chose que je n'avais pas encore fait. Et ils m'ont amené chez Patachou. Mais auparavant, j'avais rencontré Jacques Grélot qui m'avait fait l'honneur d'aimer mes chansons et qui m'avait donné une guitare. Et puis ce sont des copains de Match, Laville et Théron, qui m'ont amené un soir chez Patachou. Et le lendemain, je chantais en public. J'avais apporté mes chansons à Patachou, Brave Margot, La Prière, Les Amoureux des Bons Publics. Et je lui avais chanté toutes les autres. Ça lui avait tellement plu qu'elle avait tout écouté. J'en avais à ce moment-là une vingtaine. Le Gorille, Le Mauvais Sujet Repenti, L'Hécatombe. Et comme elle ne pouvait pas les chanter, elle m'a dit de les chanter devant le public. Alors elle se mettait là, après avoir chanté mes trois chansons, avoir annoncé un nouvel auteur. Elle disait, il écrit aussi l'autre chose que je ne peux pas chanter. Il va vous les chanter, lui, il a une sale gueule. Et il ne sait pas chanter, il ne sait pas se tenir en public, mais ça vaut la peine d'être écouté. Enfin, si ça ne vous plaît pas, vous pouvez partir, le spectacle est terminé. Je dois dire que c'était sans ça, je n'aurais jamais pu aller en public. J'avais déjà 31 ans, vous savez, je n'étais pas préparé à aller en public.
C'est à travers de larges grilles que les femelles du canton contemplaient un puissant gorille sans souci du camp des ratons. Avec impudeur, c'est comme mère, lorgnait même un endroit précis, que rigoureusement ma mère m'a défendu de nommer ici. Garogorille ! Tout à coup, la prison bien close, où vivait le bel animal, souvent c'est pourquoi je suppose qu'on avait dû la fermer mal. Le Saint-Jean sortant de sa cage, dit c'est pour lui que je le perds. Il parlait de son pucelage, vous aviez deviné, j'espère. Garogorille ! Tout le monde se précipite, hors la teinte du Saint-Jean, patron de la ménagerie, criait éperdu nom de nom, c'est assommant car le gorille n'a jamais connu de guenon. Dès que la féminine engeance sut que le singe était puceau, au lieu de profiter de sa chance, elle fit feu des deux fuseaux.
Cette fameuse chanson, dont la musique a été composée 9 ans plus tôt au camp de Basdorf, sur un rythme de tarentelle, est une sorte de manifeste anarchiste qui fera couler beaucoup d'encre par la suite. Dès le lendemain de la visite de Georges au cabaret, Patachou reçoit dans son appartement Laville et Brassens, qu'elle réécoute chanter. Elle s'empresse alors de faire son choix parmi les chansons et les répète en vitesse avec son orchestre pour les lancer le soir même devant ses clients. Les Bons Publics, La Prière, Maman, Papa et Le Bricoleur. C'est dire son excitation pour ce nouveau répertoire, bien plus séduisant que toutes les chansons nouvelles qu'on lui envoie habituellement.
Les gens qui voient de travers pensent que les bancs verts qu'on voit sur les trottoirs sont faits pour les impotents ou les ventripotents. Mais c'est une absurdité, car la vérité, ils sont là, c'est notoire, pour accueillir quelque temps les amours débutants. Les amoureux qui s'écoutent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en se foutant pas mal du regard oblique, des passants honnêtes, les amoureux qui s'écopent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en disant des je t'aime pathétiques, ont des petites gueules bien sympathiques. Ils se tiennent par la main, parlent du lendemain, du papier bleu d'azur, que revêtiront les murs de leur chambre à coucher. Ils se voient déjà doucement, elle cousant, lui fumant, dans un bien-être sûr, et choisissent les prénoms de leur premier bébé. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en se foutant pas mal du regard oblique des passants honnêtes, les amoureux.
Comme le montre ce document privé, enregistré en février 1952, où elle est accompagnée à la guitare par Brassens lui-même, Patachou devient donc sa première interprète. Elle a aussi le souvenir précis du jour où Georges, poussé par ses amis, s'est présenté dans son cabaret, comme elle le confie 2 ans plus tard à Gérard Néry dans l'émission Panoramique.
Il prend sa guitare et je lui dis alors, est-ce que vous voulez me chanter quelques-unes de vos chansons? Oui, 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 marmonne dans la moustache. Et alors il accorde la guitare péniblement, enfin, il bacard avec sa guitare, il engueule sa guitare. Et il commence, nous nous taisons tous. Et il chante La Mauvaise Réputation, qui situe le personnage. Et alors après, il me chante toutes les autres. Il se détend, petit à petit. Alors il commence à tout nous montrer, toutes ses chansons. Alors, je lui dis donc que ses chansons étaient très belles et que j'aimerais en chanter. Et je dis que, par exemple, j'allais chanter Les Amours et les Bains Publics, sûrement. Que j'allais chanter Brave Margot, sûrement, j'ai rendez-vous, mais les autres chansons, La Mauvaise Réputation, Le Fossoyeur, Corne de Rock, Le Mauvais Sujet Repenti, c'est à vous tout seul, je lui dis. Faut que ce soit vous qui les chantiez. Oh non, dit-il, c'est pas possible. Et il avait honte, honte d'être en pleine lumière. Alors ce qu'il fallait essayer, c'est de lui donner, si vous voulez, l'habitude. Simplement l'habituer, petit à petit, à ce qu'il entre en contact avec le monde. N'est-ce pas ?
Présenté par Patachou, Brassens préfère ne pas monter sur le podium. Il demande une chaise et s'installe près des dîneurs. La moitié des clients sont restés pour écouter ce supplément de programme et ils ne seront pas déçus. L'expérience, relayée par la presse courant mars 52, se reproduira plusieurs mois de suite. Mais Georges n'accepte de chanter que si Patachou reste au premier rang pour le soutenir. Quelques jours après ses débuts au cabaret, Brassens suit la chanteuse à Bruxelles, où elle va chanter à l'ancienne Belgique, notamment certaines de ses chansons. À cette occasion, Patachou rend visite à la famille Cordier, dont le fils Pierre, futur artiste plasticien, réalise des enregistrements privés sur un magnétophone. Ainsi, Patachou introduit la chanson « Le bricoleur », qu'elle-même enregistrera en 1953. C'est donc un document exceptionnel d'entendre Brassens chanter lui-même cette chanson, destinée à une interprète féminine, et qu'il ne gravera jamais commercialement.
Pendant les rares moments de pause, où il ne répare pas quelque chose, il cherche le coin disponible où l'on peut encore planter un clou. Boîte à outils, boîte à outils. Le clou qu'il enfonce à la place du clou d'hier, il le remplace. Ras de main par un clou meilleur, le même qu'avant-hier d'ailleurs. Mon Dieu quel bonheur d'avoir un mari qui bricole. Mon Dieu quel bonheur d'avoir un mari bricoleur. Boîte à outils, boîte à outils. Au cours d'une de mes grossesses, devant le grenier sans cesse, contre l'incroyable cherté d'une layette de bébé, boîte à outils, boîte à outils. Mais lorsque l'enfant vint au monde, je vis avec une joie profonde, mon mari s'était débrouillé pour me le faire tout habiller. Mon Dieu quel malheur d'avoir un mari sur les corps. Mon Dieu quel malheur d'avoir un mari sur les corps.
Après avoir entendu Brassens le premier jour, Patachou a dit à Victor Laville qui l'accompagnait « Dans un an, votre copain sera plus connu que moi. Nous verrons dans la prochaine émission qu'elle ne s'est pas trompée. En attendant, je vous souhaite une très bonne semaine à l'écoute de France Musique. » Tour de chant, une émission de Martin Penney, avec le concours de Dorothée Goll à la préparation, Éric Boisset à la technique, David Jacubovies à la réalisation, Véronique de Saint-Pastou et Aude Vassan pour les archives de l'INA.
À réécouter sur francemusique.fr.